Le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. La planète en proie à la pandémie du Covid-19 et pourtant, des hommes ne sont pas au courant. Mission top secrète, les mauvaises nouvelles sont interdites à bord des sous-marins de dissuasion nucléaire. Leurs familles doivent choisir leurs mots pour donner des nouvelles. Soupçonné d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine annonce 1300 morts supplémentaires à Wuhan, l'épicentre de la pandémie. Les tests sérologiques sont très attendus en France. Ils font encore l'objet d'évaluations et devraient être prêts la semaine prochaine. Et puis la mort du chanteur Christophe des suites d'une maladie pulmonaire selon sa famille. Il était âgé de 74 ans.
Et je vous rappelle que dans 20 minutes à 7h50, c'est le président directeur général d'Orange qui est l'invité de France Inter. J'ai nommé Stéphane Richard.
France Inter.
Plus de 2 millions de cas dans le monde, 140 000 morts, une planète confinée de New York à New Delhi. Et pourtant, Laurence, certains ne sont pas au courant de cette pandémie.
C'est le cas des sous-mariniers français. Ils sont partis en mission avant le début de l'épidémie et ils ignorent tout du coronavirus. Impossible de donner trop d'informations pendant qu'ils sont sous l'eau, confinés pendant 70 jours. Et surtout pas de nouvelles anxiogènes. Ce n'est pas toujours facile pour les familles qui doivent cacher la vérité dans les messages qu'elles envoient aux marins. Hélène Filier a joint l'une d'entre elles.
Quand Marion s'est retrouvée confinée avec ses enfants, comme tous les Français, il a fallu qu'elle brode.
J'ai mis que tout allait bien, que le soleil était enfin revenu, qu'on s'aérait. On allait dans le jardin, on lui fait comprendre qu'on allait à la plage, comme ce qu'on fait d'habitude quand il fait beau.
Les familles peuvent envoyer un message de 40 mots chaque semaine. Ça s'appelle des familigrammes et c'est très contrôlé pour ne pas perturber l'équipage. Pas question, évidemment, de parler de l'épidémie.
Ça fait un moment qu'on a l'habitude des familles et que je connais la situation et que je sais ce que je peux pas mettre. Donc, ça m'était pas venu à l'idée de parler du coronavirus, mais on avait reçu en plus des instructions à partir du moment où il y a eu le confinement, comme quoi il fallait faire attention dans nos messages à ne pas dire que les enfants étaient à la maison, qu'on faisait classe à la maison ou des choses comme ça. Parce que ça, forcément, c'est, on se demande pourquoi il n'y a pas école, quoi. Donc si l'école est fermée, on se doute qu'il y a un gros souci.
On imagine l'effet psychologique à bord d'un sous-marin, mais à terre, ce n'est pas toujours simple non plus.
Moi, j'étais en stress à l'idée de tomber malade, donc moralement, c'était compliqué. Après, 10 jours après, déjà, tu relativises, tu te dis que ça fait 10 jours que t'es confiné, je faisais hyper attention, donc la probabilité de tomber malade était quand même plus faible. Mais ouais, au début, avec mes dernières journées de boulot où c'était la folie, tout ça tu peux pas le dire, donc c'était compliqué quoi.
Son mari est aujourd'hui rentré de mission, prévenu 2 jours avant l'arrivée pour éviter un trop gros choc.
Hélène Filly. C'est une interview inédite qu'Emmanuel Macron a donnée au Financial Times. Dans ce long entretien, il n'hésite pas à mettre en lumière les mensonges du gouvernement chinois sur le véritable nombre des victimes du coronavirus. Le chef de l'État appelle à ne pas faire preuve de naïveté. Il juge impossible de comparer des pays où l'information circule librement avec d'autres, où la liberté d'expression est réduite. Des choses se sont passées qu'on ne sait pas, dit Emmanuel Macron. Paris, Londres comme Washington expriment aujourd'hui des doutes sur les explications fournies par la Chine au début de la pandémie. Selon le Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté Washington il y a 2 ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire local qui étudier les coronavirus chez les chauves-souris. Et puis la Chine révise ce matin brutalement son bilan du Covid-19. 1290 décès supplémentaires, des chiffres sujets à caution dans le pays le plus peuplé au monde. Correspondance à Pékin de Dominique André.
Les autorités locales de Wuhan font état de 1290 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre de personnes mortes du Covid-19 dans toute la Chine à 4632. Dans son communiqué, le bureau chargé du contrôle de l'épidémie justifie cette hausse soudaine par la surcharge de travail dans les hôpitaux qui, en pleine épidémie, n'avaient pas le temps de compter les personnes décédées. Certains hôpitaux n'ont pas envoyé les informations à temps, peut-on lire. Des malades sont morts aussi à leur domicile, n'ayant pas pu être hospitalisés, précise le bureau de Wuhan. Une phrase retient aussi l'attention. La révision du bilan est faite au principe d'être responsable devant l'histoire, le peuple et les morts. Beaucoup de commentaires apparaissent ce matin sur les réseaux sociaux. C'est un énorme progrès du gouvernement, écrit un internaute. Nous devons répondre à la préoccupation sociale, relève l'agence de presse Chine Nouvelle. Le bilan officiel des victimes du Covid-19 en Chine a fait l'objet d'une grande suspicion au sein de la population. Mais on est toujours sans nouvelles des lanceurs d'alerte qui ont témoigné de la catastrophe sanitaire. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et puis ce coup de frein inédit pour la croissance chinoise. Le PIB s'est effondré de 6,8% au premier trimestre. C'est son plus mauvais résultat depuis la fin de l'ère maoïste. Pendant ce temps, Donald Trump dévoile son plan pour redémarrer le pays qui compte 22 millions de nouveaux chômeurs à cause de la pandémie. Un déconfinement progressif en 3 étapes en fonction des États et de la décrue de la propagation de l'épidémie. On en reparlera dans le journal de 8 heures. Et ce sondage auprès des Américains, près de 2/3, estime que Donald Trump a tardé à prendre des mesures décisives face à la menace du virus. Ils estiment qu'il a minimisé la gravité de l'épidémie et son impact sur les États-Unis. Beaucoup de questions aussi concernant la contamination à bord du porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. Audition de la ministre des Armées par la Commission de la Défense nationale et des Armées. Elle sera entendue, Florence Parly, à 15h cet après-midi par les députés de la Commission. 668 marins du Charles de Gaulle sont actuellement touchés par le virus et il y en aura probablement d'autres une fois le dépistage terminé. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, les parlementaires attendent des réponses, Nathalie Hernandez.
Deux enquêtes sont en cours, mais il va falloir sans nul doute répondre à l'inquiétude des marins et de tous les militaires. Comment ce virus a-t-il pu mettre à mal la mission du Charles de Gaulle à tel point qu'il rebrouche chemin ? Pour Jean-Michel Jacques, député de la majorité et vice-président de la commission de défense, l'essentiel sera de comprendre.
C'est l'ensemble du dispositif qui doit être questionné face à un événement qui est nouveau. Je pense qu'il faut vraiment bien étudier qu'est-ce qu'on avait comme connaissance à ce moment-là par rapport au virus. Et vous voyez bien que de jour en jour, nos connaissances changent. Quelles ont été les attitudes des uns et des autres face à la situation? Mais nous devons regarder les choses en face pour être meilleurs demain.
Une situation inédite qui prive l'une des composantes de la dissuasion nucléaire de ses capacités opérationnelles. C'est à cela qu'il faudra réagir, estime Bastien Lachaud, député de la France Insoumise.
Un porte-avions à l'arrêt, tout le groupe aéronaval à l'arrêt, de nombreux navires qui sont également rappelés. Donc il y a un vrai enjeu de comprendre pour prévenir, parce qu'aujourd'hui, en effet, en tout cas la marine n'est plus aujourd'hui en capacité de remplir son contrat opérationnel.
Un autre rendez-vous au Palais Bourbon attend la ministre dans les prochains jours. Ce sera devant la mission d'information sur l'épidémie de Covid-19.
Nathalie Hernandez, lueur d'espoir, le nombre total de personnes hospitalisées pour le Covid-19 décroît pour le 2e jour consécutif, ajouté au fait que moins de personnes sont également en réanimation. De légères baisses qui indiquent que la circulation du virus se stabilise à un niveau élevé. Quant au déconfinement, expliqué hier soir Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé, la stratégie sera accompagnée de tests massifs. Et à propos des tests sérologiques, ils sont très attendus. Des investigations cliniques plus poussées doivent encore les valider. Ils doivent répondre à un cahier des charges précis, à des critères d'exigence, de qualité. Car actuellement, rappelons-le, certains tests sont utilisés dans les labos, mais sans homologation, donc avec une fiabilité incertaine, Daniel Messager.
Les tests sérologiques doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire, c'est ce que demande la Haute Autorité de Santé, et c'est le Centre National de Référence qui en est chargé. Sur ces deux sites, l'un à Paris, à l'Institut Pasteur, qui a mis au point un test de référence, une sorte d'étalon, l'autre à Lyon. Comment cette évaluation est-elle établie ? On confronte les tests envoyés par des industriels à des sérums de patients infectés recueillis dans les hôpitaux de Strasbourg, de Paris, et on regarde s'ils sont capables de détecter les anticorps qui vont témoigner d'une réponse immunitaire et à quel moment c'est un test de performance. Pour s'assurer d'un résultat négatif, on utilise du sérum conservé avant l'épidémie. On est donc sûr qu'il n'a pas été en contact avec le virus et on vérifie qu'il est bien évalué comme négatif. Le test de spécificité doit afficher pour la Haute Autorité de Santé 98% de réussite. Les premières évaluations sur une quarantaine de tests seront connues en début de semaine prochaine. Les plus performants pourront ensuite être homologués.
Daniel Messager, soutien aux entreprises, aide aux plus pauvres, prime aux soignants. Les députés doivent voter aujourd'hui un budget aux dépenses considérablement alourdies pour affronter la tempête économique et sociale provoquée par la pandémie, dont le bilan frôle les 18 000 morts en France. Alors c'est la bonne nouvelle du jour pour les 1300 saisonniers de Disneyland Paris, dont la direction voulait se séparer faute de pouvoir ouvrir le parc. Leur embauche est bel et bien maintenue, Philippe Lefebvre.
Eh bien, on peut dire que la direction du premier parc d'attractions européen a fait marche arrière, car après avoir envisagé au début du mois d'annuler les contrats de 1300 collaborateurs saisonniers, dont 350 intermittents du spectacle, parlant de cas de force majeure, eh bien, celle-ci a revu sa position en validant tous les contrats pour les artistes qui devaient participer aux 4 spectacles quotidiens et pour les étudiants qui, chaque été, viennent renforcer les équipes du parc. Résultat d'intenses négociations, selon Jamila Waz, délégué CFDT de Disneyland Paris.
Donc, discussion pendant quand même une bonne semaine avec la direction pour être enfin entendu, puisque c'est quand même la Walt Disney qui est aux commandes, hein, donc c'est les Américains, hein, pour qu'ils reviennent sur le fait de la prise en charge des intermittents et des CDD. Je pense que tout le monde a été dépassé, aussi bien l'entreprise, aussi bien les organisations syndicales par rapport à cette situation. Hein.
Officiellement, l'accord a été signé samedi dernier, semble-t-il sans intervention gouvernementale, et désormais, comme pour les 17 000 autres salariés de l'entreprise, eh bien, les CDD et les intermittents seront dès la semaine prochaine au chômage partiel et ne toucheront donc que 84% de leur salaire de base.
Il criait Aline pour qu'elle revienne. Il aimait la vie, la nuit, le jeu et les voitures rapides. Le chanteur Christophe est décédé, selon les mots de sa famille, des suites d'une maladie pulmonaire. Christophe avait été hospitalisé le 26 mars dernier à Paris avant d'être transféré à Brest où il était depuis intubé sous sédation profonde. Âgé de 74 ans, c'est l'un des plus grands artistes français qui disparaît. Mathieu Curon s'était entretenu avec lui, c'était en 2016 dans Christophe la nuit ou Christophe le maniaque du son.
Je suis comme un instrument, quoi, j'aime bien comme un instrument, voilà, donc je commence toujours par faire dans les albums la musique. Et puis après, bon ben, comme j'aime chanter en français parce que de toute façon c'est ma langue, voilà, donc je cherche des mots aussi qui vont avoir le son, quoi. C'est-à-dire que le son prime sur le. Moi je suis pas un chanteur, voilà, parce que quand j'avais 12-13 ans, ce qui me plaisait c'était de faire de la percussion avec des lessiveuses, de faire du son, du bruit. Après, j'ai chanté, bon, parce que j'ai chanté, pas parce que j'avais envie de chanter. J'ai chanté, pas comme un chanteur, j'ai chanté parce que les échos que je pouvais mettre sur ma voix me donnaient envie de chanter. Moi, je chante que si j'ai le son, hein. Sinon, je suis pas chanteur.
Entretien de Mathieu Curon avec Christophe, c'était en 2016.
Merci Laurence Thomas.